Ludovic Laton, secrétaire de l'association de pêche AAPPMA Bas-Verdon, lors d'un entretien téléphonique, présente sa très dynamique association, impliquée dans de nombreuses actions, et délivre quelques messages importants pour préserver les cours d'eau. Ludovic Laton, vous êtes secrétaire de l'association de pêche du Bas-Verdon.
Oui, tout à fait. On est une AAPPMA, une association agréée pour la pêche et les protections des milieux aquatiques. On est sous l'égide donc d'une fédération départementale, une fédération régionale et une fédération nationale. Du coup, on a en charge un secteur d'un territoire donc sur le nord-ouest du Var, et on dépend en fait des baux de pêche que l'on obtient auprès des propriétaires de la rivière. À savoir que le Verdon est une rivière privée où, du coup, il faut conventionner avec des propriétaires qui nous donnent les autorisations ou non de pouvoir pratiquer la pêche et la protection des milieux aquatiques par notre association sur ces territoires-là. Donc, c'est un travail assez colossal sur notre secteur, entre les affluents qu'il peut y avoir, Mallory, Louanne, ainsi que le Verdon, c'est à peu près 450 parcelles qu'on a en veille et où on se rapproche des propriétaires pour avoir des baux de pêche en bonne et due forme. On a aussi des baux de pêche avec l'État, donc la Durance en fait partie, avec les gravières, certaines gravières en bord de Durance, puisque c'est une rivière domaniale qui appartient à l'État, et donc là c'est les domaines qui officient, ainsi qu'une partie du lac d'Esparron qui est varois, et où là c'est directement la fédération qui détient les baux de pêche et qui travaille directement avec l'État. C'est très territorialisé en effet, mais ça nous donne un sens dans un état de droit pour pouvoir agir sur les milieux et aussi avoir une certaine reconnaissance de notre travail et une certaine limite aussi pour pas faire n'importe quoi sur des territoires où on n'a rien à y faire parce qu'on n'a pas conventionné.
Ce qui est important, évidemment, au premier chef, c'est l'eau. Vous gérez la faune aquatique et la gestion aussi des débits d'eau, la qualité de l'eau, etc. Tout ça vous concerne ?
Oui, alors tout à fait. Alors, donc de gérer, non, puisque là, du coup, on est sous l'aval de EDF, hein, donc avec une gestion industrielle de l'eau, hein, avec une répartition voilà, qui se fait avec le canal de Provence, les agriculteurs, les industriels et les collectivités, et avec une nécessité, bien sûr, de laisser de l'eau dans la rivière pour les milieux aquatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en fait, on participe à tout ce qui est réunion, mise en place de protocoles, de suivi d'études, etc., en lien avec aussi bien le parc naturel régional du Verdon, hein, qui est l'établissement qui s'occupe de la GEMAPI donc sur le territoire. On a quand même nos propres suivis, donc on suit nous la qualité de l'eau avec nos outils, donc on a notre propre réseau de thermographes, ce qui nous permet de voir la température de l'eau sur le Verdon, plusieurs secteurs, ainsi que sur les affluents. C'est une donnée fondamentale, on parle beaucoup de quantité d'eau, on a un débit réservé qui est ce qu'il est, hein, sur le Verdon, mais si on a ce paramètre de température qui est dégradé ou qui va au-delà d'une certaine limite, on a beau avoir de l'eau, mais il n'y aura pas d'habitants dedans, ou des habitants qui n'ont pas forcément quelque chose à y faire, on va dire, sur des espèces autres que la truite, qui est notre espèce cible sur le Bas-Verdon. On a ce suivi-là, on fait un suivi aussi sur les invertébrés, on fait un suivi régulier sur les jaugeages, donc on prend les débits à différents secteurs aussi du Bas-Verdon et les affluents pour suivre un petit peu l'évolution des débits en fonction de la saisonnalité, hein, même si, comme on le dit, il y a un débit réservé qui nous est délivré, mais il y a des pertes en ligne, il y a des résurgences qu'on ne voit pas, hein, des petites résurgences latérales, donc qui apportent aussi de l'eau fraîche, heureusement. On fait aussi tout un suivi sur les poissons. On a récemment fait une étude en équipant donc les truites sauvages qu'on avait capturées en pêche électrique avec des émetteurs pour voir la fragilité du pont de Vinon, qui est un des derniers ouvrages en fait qui apporte des difficultés sur le secteur. Et voilà, donc on a une restitution officielle d'ailleurs vendredi prochain.
Quel est le problème avec ce pont ?
Avec le pont, en fait, c'est que, avec la création des grands barrages, hein, en amont, des 5 grands barrages, c'est qu'on a maintenant entre 4 et 5 mètres de perte de cailloux, hein, de matelas sédimentaires, sur cette partie-là. Et du coup, ça fait maintenant une grande marche, on va dire. Voilà. Avant, il n'y avait pas, quand on prend les photos de 1900, hein, les photos de cartes postales, il n'y avait pas du tout de rupture de continuité entre l'amont et l'aval du pont. Et maintenant, voilà, on a un obstacle artificiellement devenu infranchissable par cette roche mère qu'il y a. Donc on sait que les poissons du moyen adulte, les truites, arrivent à remonter dans certaines conditions, et notamment par la partie kayak, hein, parcours kayak. Donc du coup, l'intérêt, c'est que en même temps, on a aussi fait une que des prélèvements génétiques sur tous les affluents du Verdon, du Bas-Verdon, et ainsi que sur le Verdon, sur différents secteurs, pour voir un peu la dynamique de population et voir si ce pont mettait en fait une rupture génétique. On s'est aperçu que non, finalement. Ça, c'est intéressant à savoir. Par contre, on a toujours cette problématique avec ce qu'on appelle le boudin de Gréou, où là, c'est vraiment un seuil infranchissable. Et on voit qu'il y a une grosse problématique de brassage génétique avec les poissons qui se trouvent en amont et à l'aval. Et surtout, à savoir que pareil, dans le cadre de nos suivis, on fait le suivi de reproduction des truites fario, donc chaque année, l'hiver, où toutes deux, trois fois par semaine, en tant que bénévole, on va au bord de l'eau suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe, voilà, voir un petit peu quand elles se reproduisent et où. Et on s'aperçoit que sur la partie amont, donc juste à la sortie des sparons, on a de moins en moins de matelas alluviales, du fait des crues et autres, et qu'on a de moins en moins d'apport de cailloux. Seul le colosse peut en apporter sur cette zone-là, et bon, il n'y a pas trop de dynamique non plus. Les surfaces favorables à la reproduction se réduisent, on a une perte de diversité génétique sur ce territoire-là. Donc il y a des travaux qui seront à entreprendre, qui seront certainement portés par le parc du Verdon, parce qu'ils seront assez importants, donc pour remettre des cailloux, et puis après avoir aussi... quand est-ce que ce seuil sera enlevé ou pas, ça c'est toujours dans les tuyaux et on espère le plus tôt possible parce qu'on a une grosse problématique de thermie, comme je vous le disais tout à l'heure, on surveille la température et ce seuil sur une saison normale, parce que là cette année on n'est pas en saison dite normale entre guillemets, c'est 2 degrés de plus que sur la thermie. Et à savoir que sur l'aval de Vinot, on est à des températures déjà au-delà de 21 degrés. Sachant que l'optimum de la truite se situe entre 7 et 18 degrés. Donc on est déjà au-dessus. Alors comme je disais aussi, heureusement qu'il y a des petits écoulements latéraux qui apportent en fait des petites résurgences. On a déterminé justement grâce à nos suivis thermiques quelques apports d'eau fraîche. Donc les poissons arrivent à se concentrer sur ces zones-là. Donc, voilà, on a eu un petit peu de pluie ce matin, on peut s'en réjouir, mais bon, c'était pas grand-chose.
La situation actuelle est exceptionnelle, elle est presque dramatique. Il y a un manque d'eau absolument terrible qu'on n'arrivera sûrement pas à combler cette année, en tout cas.
Oui, alors, sur notre secteur, c'est un peu particulier. On est sur un secteur artificialisé complètement. Il faut imaginer que le barrage d'Esperon est une source, entre guillemets. Le débit réservé est une source. Du coup, on est sur une vallée close, avec aussi un soutien qui a porté sur le Mallory, donc l'affluent rive gauche qui passe sous le canal EDF et le canal de Provence, et il y a une petite décharge d'eau de 20-30 litres secondes à peu près qui nous est octroyée. Donc du coup, ça maintient 7 à 8 kilomètres de ce cours d'eau en survie, entre guillemets. Et par contre, bon, après le colosse, celui qui est complètement naturel, mais après là-dessus, nous, notre APPM n'a pas la compétence sur ce territoire-là. Mais bon, voilà, on suit ça de près. On voit que bon, les débits baissent de plus en plus. Je sais qu'il y a des assiettes au niveau de Roumoule, il me semble. Donc voilà, ça commence à être inquiétant. Par contre, bon, voilà, comme je vous dis, nous, on surveille énormément la température parce que le débit, il ne bouge pas avec ce débit réservé-là, quasiment. À part un peu la mise en place des fourrages la nuit, on s'aperçoit bien de la baisse des débits la nuit, avec l'activation des fourrages, avec une sonde qui est à Vinon, là, où on voit bien les débits quasiment au litre près. Donc voilà, on peut s'apercevoir de certaines choses. Voilà, un point de vigilance, et c'est là où, comme je vous disais, on surveille vraiment la thermie, parce que c'est vraiment le paramètre le plus important pour les poissons sur ce territoire-là. L'idée, c'est de bien connaître sa rivière. Donc, comme je disais, on fait la suivi thermique, on fait des pêches électriques, on fait des suivis génétiques. On fait aussi des suivis de voir si le matelas alluvial fonctionne bien en mettant des sticks de bois dans le matelas alluvial. Donc en fait, on s'aperçoit si on a un bon brassage d'oxygène dissous dans ce matelas, c'est là où on a tous les invertébrés, les poissons qui peuvent vivre en fait là-dedans. On suit tous ces éléments-là et quand on s'aperçoit qu'il y a quelques petits dysfonctionnements, on essaye de donner des coups de pouce parce que comme je dis, on est complètement dans une zone artificialisée, on essaye d'apporter un maximum de résilience sur ce territoire. Depuis 2017, on a mis à peu près 1000 tonnes de blocs de pierre entre 500 kg et 1,5 tonne pour diversifier les habitats, les écoulements. Du fait qu'on n'ait plus d'apport de cailloux et en fait on a dimensionné ça en fonction donc du débit réservé, du débit éclusé à Vinon puisqu'on a une sortie d'eau de l'usine hydroélectrique de Vinon. L'idée, voilà, c'est d'augmenter les capacités d'accueil en mettant ces blocs. Et après, on continue aussi à mettre avec des petits blocs à titre bénévole avec quelques copains. On met des pierres de 5-10 kilos un peu dans la rivière pareil pour un peu casser la linéarité des écoulements, pour augmenter le brassage de l'oxygène dissous et essayer de brasser aussi la température de l'eau pour essayer d'atténuer les augmentations. En plus de tout ça, on réalise aussi des journées de sensibilisation au bord de l'eau avec des scolaires. La semaine dernière, on a fait 4 classes de l'école primaire de l'eau vive avec la Fédération départementale de pêche qui est venue pour justement sensibiliser les petits au milieu. Parce que bon, on habite en binôme, on voit l'eau, le Verdon tous les jours, mais voir qu'est-ce qu'il y a sous les cailloux, comment ça vit. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça et c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, on fait aussi également des journées d'initiation à la pêche ou des week-ends aussi, où on fait venir différentes personnalités pour apprendre un petit peu des techniques de pêche différentes. Et là, c'est ouvert à tous, petits, grands, des gens qui veulent se mettre à la pêche, les nouveaux retraités, les gens qui sont en vacances. De temps à autre, on organise ce type d'événement-là.
Vous avez quand même un travail assez colossal. Vous êtes combien dans votre association? Combien d'adhérents?
En 2016, on était à peu près 550 adhérents. Là, l'année dernière, on approchait les 1000. On s'aperçoit que quand on apporte une dynamique sur un territoire, eh ben, on est, entre guillemets, récompensé par des nouveaux adhérents. Ce qui nous fait plaisir, c'est surtout de retrouver des gens, soit des néo-ruraux ou des gens avec ITR ou cadarache qui arrivent en déplacement ou en grand déplacement, qui se mettent à la pêche, ou des gens qui avaient pêché auparavant et qui avaient arrêté, et puis là, qui se remettent à la pêche. Et donc, du coup, ça, c'est notre plus grande satisfaction. Cette année, on est sur une très bonne dynamique de vente de cartes de pêche. Bon, après, on cherche pas forcément à ce qui est plus d'adhérents, entre guillemets. C'est pas une fin en soi. Au niveau financement, c'est pas ça qui va nous changer énormément nos actions. Mais après, en termes de bénévoles pour faire les actions, c'est surtout ça qui nous intéresse. À chaque fois qu'on fait des actions, en fonction du type d'action, on peut se retrouver entre des fois juste 2-3 ou même seul. Mais des fois, voilà, on peut se retrouver vite fait une vingtaine, voire une trentaine selon les actions. Des fois, on fait des actions de débroussaillage, on s'est retrouvé à 25. Ouais, c'est vrai que c'est tout dépend. Voilà.
Si l'on souhaite vous contacter, vous avez un site, un téléphone?
On a un site internet qui s'appelle AAPPMA du Bas-Verdon. De suite, on a un blog aussi qui s'appelle Bas-Verdon sur Overblog. Et ensuite, un mail, c'est AAPPMA du Bas-Verdon, tout attaché, @hotmail.fr. L'idée, c'est qu'on essaye de donner un maximum d'informations. On a la possibilité aussi de communiquer énormément grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, Instagram, Twitter, et voir voilà même un peu tout le travail qu'il y a derrière, qui est assez colossal. Hein. Là, cette année, on est déjà, je crois, à plus de 600 heures de bénévolat. On est qu'en juin. Tout cumulé entre les réunions, des organisations de manifestations, des travaux. On est très dynamique et, comme vous dites, l'intérêt, c'est d'essayer d'apporter un maximum de résilience sur ce milieu artificialisé mais contraint.
Il y a une façon de vous aider aussi directement, on peut faire des dons à votre association.
Oui, alors tout à fait. Alors ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ça. Beaucoup de personnes extérieures à la PPMA qui, pour tout un tas de raisons, ne prennent soit plus la carte de pêche ou la prennent dans d'autres territoires, veulent nous accompagner sur certaines actions. Donc, c'est sur nos sites internet. Vous pouvez déposer des dons qui sont bien sûr défiscalisés en partie. La thématique de cette année, c'est sur les lâchers de poissons de seconde catégorie pour les gravières de bord de Durance, où du coup, chaque année, maintenant, on déverse des carpes, des poissons blancs, ainsi que des brochets, dans l'idée d'aller plus loin que ce que peut nous permettre les rétributions des ventes de cartes de pêche.
On trouve les informations pour ces dons sur votre site?
Sur notre site internet, oui, tout à fait. Il y a des périodes et des thématiques. Là où les gens se retrouvent le plus dans leurs thématiques, ils peuvent nous accompagner. C'est pas un don juste pour dire j'apporte de l'argent à la PPMA. Je fais une action qui peut être louable, mais l'idée, nous, ce qui nous intéressait, c'est de tracer en fait là où va l'argent et à quoi il sert. Ça, c'est un peu notre leitmotiv, parce que les gens prennent des cartes de pêche, mais ne se rendent pas compte après de ce qu'il y a derrière. Donc l'idée, c'est qu'on leur dise un maximum d'informations de là où ça va, à quoi ça sert. Mais voilà, pour des actions, on va dire coup de pouce en plus, qui sont sur des actions qui ne peuvent pas être subventionnées ou c'est compliqué à obtenir une subvention, d'autres financements, on a ouvert des possibilités aux dons, mais au moins les gens savent où va l'argent, à quoi il sert, et après on communique avec eux en direct en faisant un mailing régulier en disant voilà l'avancement, la commande de poissons, quand est-ce qu'ils sont déversés. L'idée, c'est qu'on essaye surtout de faire une gestion durable avec ces dons-là. C'est pas se faire un gueuleton entre trois personnes du bureau. C'est pas du tout notre but. Et l'idée, c'est d'apporter des poissons dans des milieux, bon, ben là, c'est comme je disais sur les gravières hein, cette année, sur des milieux artificialisés, mais où ces poissons-là vont pouvoir se reproduire. C'est pas uniquement de venir prendre des poissons qu'on a consommés de suite après. L'idée, c'est de pouvoir aussi faire du prélèvement, hein, bien entendu, mais c'est aussi d'essayer de soutenir une population de brochets sur des gravières où on est en basse clos, hein, il n'y a pas d'apport d'eau de la Durance. Voilà, un soutien, et ces poissons peuvent se reproduire aussi.
Il y a un gîte à Avignon qui vient de recevoir le label pêche.
Label hébergement pêche, donc c'est un label national qui est régi par un cahier des charges très strict. Tout pêcheur qui veut trouver une destination de vacances sur le terrain national peut avoir des critères en fonction de ce qu'il veut pêcher. Les hôtes, en fait, mettent à disposition tout un tas de matériel spécifique, en fait, pour le pêcheur. Ça peut aller d'un local pour faire sécher ses waders ou ses cuissardes ou ses tenues de pêche, d'avoir un frigo spécifique pour les appâts, ensuite toute une documentation sur la pêche avec des livres, aussi bien techniques que littéraires, aussi retrouver nos actions sur le terrain. L'idée, c'est de retrouver un standing entre guillemets, profilé pour le pêcheur au sein du territoire national. Là, on est sur un hébergement, là, le dernier qui vient de se faire labelliser, donc on est en centre-ville, mais à juste 200 mètres à vol d'oiseau du Verdon. C'est une maison de village avec trois chambres, assez grand, 100 mètres carrés, donc voilà, une petite terrasse, et du coup, tout pour passer un bon moment. Ça fait plusieurs années, en fait, qu'ils travaillaient sur cette labellisation, donc il y avait déjà pas mal de pêcheurs qui venaient par connaissance, certains pêcheurs qui viennent 3 4 fois par an, voire plus, passer quelques séjours courts pour pouvoir pêcher et en même temps être à 2 pas de la rivière. L'idée aussi pour nous à PPMA, c'est d'apporter une dynamique sur le territoire. C'est qu'au-delà de nos actions de préservation et des milieux aquatiques et de pêche, c'est aussi que les acteurs du territoire puissent avoir des retombées économiques. On a aussi un autre hébergement à Vinon qui est déjà aussi labellisé depuis une dizaine d'années sur la Clap à la sortie de Vinon. Ça, c'est un gîte avec un gîte de France où il y a 5 hébergements avec une piscine. On est un peu à l'extérieur donc du territoire de la rivière. On est à un petit kilomètre en voiture de la rivière, mais voilà, tout aussi sympa. La saison, vous me direz, ils n'ont pas forcément besoin des pêcheurs entre guillemets. Et voilà, c'est assez complet hein, l'offre entre toutes les activités qu'il peut y avoir sur le territoire. Mais aussi, on essaie de faire des manifestations à l'automne, hiver et printemps, notamment avec des compétitions de pêche, hein, de toute pêche sur les, notamment sur les gravières. Où ça permet en fait que sur la période morte entre guillemets, ils puissent accueillir du monde et avoir aussi une dynamique économique sur le territoire. On fait aussi bien des compétitions de pêche que donc nationales. Hein, on avait organisé une grosse compétition où on avait même un peu d'international entre guillemets avec des gens du Luxembourg, de la Belgique et d'Italie. Donc il y a quelques années, c'était assez sympa avec une soixantaine de compétiteurs. Pour l'automne, on a prévu déjà une compétition, une trentaine de pêcheurs à la mouche là sur la gravière. Les dates vont bientôt se figer, et puis voilà, ils vont pouvoir réserver des hébergements dans le coin. C'est avoir un peu une économie entre guillemets circulaire et vertueuse sur un territoire, quoi. Et essayer d'étaler la saison, parce que c'est vrai que souvent, nous, en étant dans l'arrière-pays, la saison, c'est compliqué. Et puis, les gens sont contents de découvrir un territoire. Si on organise, ça fait deux fois là, on a pu organiser le Festival Rise au cinéma du Moulin de Vinon-sur-Verdon. 5 ou 6 films d'une vingtaine de minutes qui sont labellisés par ce Festival Rise. C'est des festivals de pêche à la mouche qui sont filmés à travers le monde entier avec de très belles images, de très belles séquences. Et là, cette année, on a profité pour faire une présentation un petit peu sur la pêche dans le coin, donner quelques aller au-delà de la réglementation, notamment avec intégrer un peu d'éthique dans la pêche, des conseils sur comment bien relâcher un poisson, parce qu'il y a énormément de pêcheurs qui relâchent du poisson actuellement, mais souvent ce qu'on perçoit, c'est que ça peut être mal fait. Donc tant qu'à faire, aussi bien leur expliquer, leur donner des billes. C'était une soirée assez intéressante, et voilà, et du coup il y avait tout un groupe qui avait réservé sur ce logement. C'est pas mal, quoi. un message souvent que je passe, c'est que la gestion de la pêche donc sur ce territoire est vraiment assumée sur du bénévolat, bon, avec un peu de professionnalisation, avec l'accompagnement de la fédé départementale. Sans investissement de bénévoles, il se passe pas grand chose sur la gestion de la pêche sur les territoires. On peut être quand même fier d'avoir des bénévoles qui s'en occupent, d'avoir aussi toujours une pensée à nos familles et nos amis qui nous laissent du temps pour pouvoir faire ces actions-là, qui nous tiennent à cœur parce qu'on a de convictions. Ça, c'est important à souligner. Et en même temps aussi remercier tous les partenaires divers et variés avec qui on peut travailler parce que ça nous fait un réseau assez colossal de personnes à connaître, aussi bien EDF, le Parc du Verdon, le Canal de Provence, tous les maires, les propriétaires privés, certains industriels, tout ce qui est station d'épuration, etc. Donc du coup, c'est très enrichissant du point de vue personnel, c'est très prenant. Et en plus, on peut être fier que sur ce territoire, eh bien, on a fait pas mal de choses. On a été primé donc sur le par le RITS donc en 2020. C'est un prix plus que national qui est décerné. Hein, une APPMA donc d'Allemagne qui a été primée. Voilà, nous on a eu ce prix en 2020 par rapport à nos actions et aussi on a aussi des prix sur les trophées aquatiques au niveau régional. Donc on est assez content d'être reconnu par nos pairs sur nos actions parce que on peut faire des erreurs des fois hein, de gestion ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ben, les milieux, au moins, on apporte de la résilience. Je dis pas qu'ils vont mieux ou qu'ils vont aller bien, hein, parce qu'on a d'autres problèmes, comme je disais, avec la température qu'on suit, ou peut-être certaines pollutions. En tout cas, on se donne du mal, on prend beaucoup de temps sur nous pour le faire, et parce que ça nous plaît, hein, voilà, il faut aussi pas se leurrer. Mais c'est vrai que bon, on est beaucoup de bénévoles et.
Mais tout le monde en profite, pêcheur ou non pêcheur.
C'est ça, tout à fait. On fait une communication aussi. Alors ça, c'est un message supplémentaire qui est important. C'est surtout, on a mis des panneaux de sensibilisation, des panneaux pédagogiques sur comment expliquer les cycles de l'eau, les cycles des invertébrés, etc. tout au long de la rivière. Lisez-les. Il y a des QR codes qui vous renvoient sur certains sites institutionnels qui sont toujours intéressants à voir. Et surtout pendant les vacances, quand on est sur son smartphone, c'est prendre 5 minutes. Ça peut être intéressant de lire ce genre d'informations sur la politique de l'eau aussi en France. Il y a quelques liens institutionnels qui sont pas mal intéressants. Et après, on a fait aussi une communication au plus proche. Là où on a certaines difficultés, c'est, bon, mais bien sûr, on comprend bien qu'on a une attractivité avec l'eau, hein, d'un point de vue au moins régional ou bassin extra-marseillais avec beaucoup de gens qui viennent les week-ends, mais surtout, touchez pas aux cailloux dans la rivière, ne faites pas de barrage dans la rivière, s'il vous plaît. On en a déjà assez. Les milieux sont déjà assez contraints en capacité. Ne jamais oublier qu'on est à un débit réservé à 2,3 mètres cubes secondes dans la vallée d'Esparon et que l'étiage naturel du Verdon, c'était environ 8 mètres cubes secondes à ce niveau-là. Donc, on est déjà en dessous depuis la mise en place de ces barrages-là. Ne l'oublions jamais. Donc, arrêtons d'apporter nos petits édifices récréatifs dans la rivière. Et parce qu'après, derrière, nous, ben, soit dans l'été, quand on a un peu de temps, on va les enlever. Soit en septembre, ben, pendant quelques jours, on s'organise ça. Et quand on fait ça, on fait pas autre chose.
Et puis, en plus, la température augmente derrière ces petits barrages.
La température augmente. On piège des poissons juvéniles ou des invertébrés. Enfin, on modifie les faciès. Et vraiment, on peut comprendre des fois de faire monter une petite ligne d'eau pour qu'un bébé patauge, mais achetez un gonflable, prenez un seau d'eau, mettez de l'eau dans ce gonflable-là, à proximité, à l'ombre, mais surtout ne faites pas de barrage de galets ou de cairns avec des pierres qui proviennent de l'eau. Faites des cairns, si vous voulez, sur les atterrissements, sur les berges, mais surtout pas avec des pierres dans l'eau. S'il vous plaît. Et pensez surtout qu'il y a des êtres vivants qui vivent, même si vous ne les voyez pas comme ça, il y a des êtres vivants dans la rivière, ils ont vraiment besoin qu'on limite nos impacts.